grand dialogue.
Sikikafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibiro.
Halo Dumouni.
Chenibiri. Sikikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du Parlement, le rendez-vous de nos honorables députés. Nous en recevons quatre aujourd'hui pour débattre des sujets d'actualité. Il s'agit de Yacouba Michel Kone, Moussa Diarra, tous deux du RPM, la majorité donc, de Bakary Woyo Doumbouya, des FAR, et de Habib Sofara de l'URD. Cette semaine, nous avons retenu trois thèmes, la rentrée judiciaire des cours et tribunaux, Ebola et le changement du mandat de l'AMUNISMAN demandé par sept pays. Moi, je suis Sira Batilo Micro. Sedumbo et Saloum Diouara sont à la technique.
Studio Tamani.
La grande famille judiciaire a donc démarré sa nouvelle année 2014-2015 avec en ligne de mire l'environnement et le thème retenu est justice et protection de l'environnement qui vient bien à propos selon le président de la Cour suprême, surtout dans un pays sahélo-saharien comme le Mali, exposé à tous les dangers provenant des aléas et changements climatiques. Alors, la question qu'on se pose tout à l'heure en attendant ce thème, environnement et justice sont-ils conciliables? Et je vais commencer par Moussa Diarra du RPM. Bonsoir Moussa Diarra.
Merci madame. Je remercie tout d'abord tous les auditeurs de Studio Tamani pour nous avoir donné la parole cet après-midi et échanger sur les grandes questions qui accablent la nation malienne aujourd'hui. Moi, je suis Moussa Diarra, député élu en commune 4 du district de Bamako. Pour répondre un peu à votre question qui concerne la rentrée judiciaire, comme vous l'avez dit, la justice et l'environnement, moi je dis que c'est des thèmes qui sont conciliables. Si on s'en tient même aux définitions données par les grands juristes du Mali, je vais parler du président de la Cour suprême, de M. Tapili, sinon aussi du bâtonnier de l'Ordre des avocats, on dit que cette année vraiment, le thème choisi vient à point nommé. Ça vient à point nommé car notre pays subit notre pays a beaucoup de défis à relever sur ces domaines-là. D'accord. Nous sommes dans un pays sahélo-saharien, donc nous sommes tous convaincus qu'au nord de notre pays, nous sommes touchés là-bas. Donc si on choisit un thème pour la rentrée judiciaire qui concerne la justice et l'environnement, la protection de l'environnement, moi je dirais que ça vient à point nommé, comme l'a si bien dit les grands justiciers de ces pays.
D'accord. Bakary Woyo Doumbouya, vous qui êtes des phares, en quoi les cours et tribunaux peuvent être utiles pour le changement du comportement vis-à-vis de notre environnement qui laisse à désirer, hein?
Mais avant, je souhaiterais quand même dire bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Radio Tamani. Et remercier Radio Tamani pour penser à créer cette tribune de dialogue des parlementaires. Et moi, je pense que les tribunaux sont aujourd'hui très importants dans ce thème-là, parce que de toute façon, et dans un pays, c'est d'abord et avant tout, après la sensibilisation, il faut que des sanctions soient prises. Et si nous voyons un tout petit peu la dégradation exponentielle crescendo de notre environnement, nous ne savons pas, est-ce qu'il faut s'asseoir et être complaisant et voir tout ça, tout ce qui se passe sous nos pieds, étant donné que c'est l'homme lui-même qui dégrade, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est nous-mêmes qui détruisons notre environnement. Je pense que les tribunaux, la justice, ils ont bien fait de choisir ce thème qui est aussi important que des questions des droits de l'homme et autres. Moi, je pense.
Alors, Yacouba Michel Kone, vous êtes du RPM, la majorité. Et qu'est-ce que la justice peut trouver comme solution, par exemple, aux aléas et changements climatiques?
Bonsoir, Sera, et bonsoir à chers collègues. Bonsoir à tous les auditeurs. Et je remercie à la suite de mes collègues et le studio Tamani qui nous offre cette occasion de débattre de certaines questions brûlantes. Bon, à vue d'œil, on peut croire que la il n'y a pas de lien entre la justice et l'environnement. Quand on regarde comme ça les faits, mais aujourd'hui, je crois que l'environnement est vraiment une question cruciale qui doit interroger tous les citoyens. Si vous voyez comment l'environnement se dégrade, comme l'a dit mon ami Woyo, de manière exponentielle, est-ce qu'il faut s'asseoir pour regarder, observer ce qui se détruit autour de nous? Il y a la sensibilisation et le fait d'inscrire ces thèmes à l'ordre de la rentrée judiciaire déjà permet à plus d'un Malien de comprendre que l'environnement ne regarde pas seulement les environnementalistes, mais tous les citoyens. Après la sensibilisation, comme l'honorable Doumia l'a dit, il faut aussi des mesures pour faire comprendre aux citoyens que nous avons notre responsabilité quant à la destruction de ce qui est autour de nous. Nous avons hérité d'un environnement qui était sain. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons laisser pour nos enfants et nos petits-fils? Quand on voit comment vraiment la nature se dégrade, on se demande dans 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que ça va donner. Et par conséquent, il faut prendre le taureau par les cornes, impliquer tous les secteurs de la nation dans la gestion de cet environnement, dont la justice.
D'accord. Merci. Alors, M. Habib Sofara de l'IRD, est-ce qu'il faudrait comprendre là que la justice aura comme rôle de réprimer en cas de besoin par rapport au comportement vis-à-vis de l'environnement?
Merci, madame. Je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour vous remercier de nous avoir donné l'opportunité d'être parmi vous. Bon, je trouve que ce thème que nous débattons aujourd'hui est un thème très important. Il est important d'autant plus que c'est même la vie de notre pays. C'est même la vie de notre pays. Quand on parle aujourd'hui de l'environnement, bon, vous savez qu'au-delà de la destruction dont les autres ont parlé, il faut que l'on tienne compte du fait que nous appartenons à un pays qui, dans sa majorité, est désertique. Désertique. Et les caractéristiques du désert, vous le savez. Déjà, c'est la sécheresse. C'est aussi le manque de pluie. C'est d'autres problèmes. Si au-delà de tout ça, nous venons encore et détruire c'est le peu que nous avons avec la désertification, avec tout ce que vous voyez comme tout, la pollution, bon, c'est un problème. Ouais. C'est un problème contre lequel il faut se soulever et le plus tôt que possible et de la façon la plus rigoureuse. De la façon la plus rigoureuse. Et tel que vous le savez, il n'y a que la justice. Ça, je vous le dis. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un type qui disait que, en tout cas, pour agir dans un milieu, il faut connaître la mentalité de ce milieu. Et au Mali, aujourd'hui, on sait que si ce n'est pas la justice, il n'y a aucun moyen de lutter contre, justement, cette...
Donc la justice aura pour rôle de réprimer dans ce cas.
Bon, réprimer, sensibiliser et réprimer à la fois. Sensibiliser, on peut sensibiliser, on peut amener la population à renoncer à cette destruction sans pour autant même réprimer.
D'accord.
Mais je suis sûr que ça ne peut pas aller sans la répression.
Alors, il n'y a pas que ce problème de l'environnement qui concerne tous les Maliens. Et lors de l'ouverture des travaux, le bâtonnier de l'Ordre des avocats a souligné quelques problèmes récurrents comme la corruption de la justice. Monsieur Kone, vous qui êtes du RPM, est-ce que vous pensez que la justice malienne est libre? Vous croyez à la liberté de la justice malienne?
Parfaitement. Je crois parfaitement à la liberté de la justice malienne quand...
Son indépendance,
quand je regarde 25, 30 ans avant, ce n'était pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir apprécier les parcours. Il y a, dans les années 68 au Mali, un magistrat ne pouvait pas s'imaginer et prononcer une sentence et se dire que je suis quitte de toute sanction possible. Bon, aujourd'hui, cette indépendance, bon, peut-être que pour ceux qui n'ont vu que ces 5 ou 10 dernières années, mm-hmm. peuvent la remettre en question. Mais aujourd'hui, je pense que aucun juge ne s'inquiète après avoir rendu une décision, parce que c'est clair que il est protégé dans le jugement qu'il rend. Il sait, même s'il s'est trompé, il y a moyen de faire appel. Mais il n'est pas question, lui, de le poursuivre pour aller le mettre en prison parce qu'il aura mal apprécié le fait qui lui a été soumis. Et ça, je crois que personne ne peut citer aujourd'hui un cas de magistrat, d'un juge qui devant un jugement, après l'avoir rendu, qu'il s'est inquiété pour quoi que ce soit. C'est pourquoi je crois.
Alors, M. Habib Sofara, vous pensez que la justice malienne est indépendante?
Bon, depuis l'avènement de la démocratie, cette indépendance a été donnée à la justice. Et de ce moment à aujourd'hui, apprécions.
Et comment vous appréciez?
Apprécions. Mmh. Quand je dis apprécions, nous sommes là, très objectivement, qu'on voit ici, on a progressé ou on a régressé en matière de justice.
Je vous pose la question.
Bon, si moi vous me posez la question, je dirais simplement que, en tout cas, les gens, ils font trop de reproches à la justice. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Les gens, ils font beaucoup, beaucoup de reproches à la justice. Et c'est vrai, comme il l'a dit mon prédécesseur, la justice n'est pas inquiète. Elle n'est pas inquiète du tout. Parce qu'elle ne sent aucune menace autour d'elle. Mais ce qui reste vrai, son indépendance l'amène à faire aussi des fois ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut.
C'est-à-dire?
Moi, par exemple, si je vais vous dire, je suis un député, j'ai été élu il y a juste, ça me fait 25 mandats. Donc 25 ans.
Ouais.
Ma dernière élection a été la plus difficile. Pourquoi? C'est que j'ai passé au premier tour avec plus de 51%, à peu près 52%. Et je vous dis, pendant les 7 fois que j'ai eu à voter, du début de ma politique à aujourd'hui, j'ai toujours passé au premier tour, toujours. Et cette fois-ci aussi, j'ai passé au premier tour. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La justice m'a retiré 6300 voix sans aucune raison. Et m'a poussé au deuxième tour.
Donc la justice malienne est corrompue selon vous?
Ah bon, je ne dirais pas qu'elle est entièrement corrompue, mais il y a des éléments là-dedans. Alors, il y a des éléments là-dedans qui font ce qu'ils veulent. Ah bon. En tout cas, ce n'est pas tout le monde.
Alors, Bakary Wayo Doumbia Defar, vous pensez la même chose que lui ou bien comment vous appréciez l'indépendance de la justice malienne?
Et théoriquement, je pense que la justice malienne, quand même, elle est indépendante. Vous voyez tous les textes, c'est très clair. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Volonté politique pour offrir...
Mais dans la pratique...
Voilà. Maintenant, dans la pratique, il faut y observer de près. Et on ne peut pas accuser tout le monde, parce que j'espère que les magistrats nous entendent, que dans ce corps-là, il y a des gens qui font de plus en plus leur travail correctement, mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas irréprochables, parce que sans une justice équitable, je ne sais pas où est-ce que la démocratie peut aller.
Bien sûr.
Tous les jours que nous suivons, nous voyons que les citoyens, effectivement, sont victimes un peu du jugement rendu, du verdict souvent qui n'est pas à la mesure, des gens qui volent, demain on les rencontre dans la rue, des gens qui peuvent se permettre de commettre des forfaits, mais s'endosser à... Donc vraiment, il y a des problèmes à ce niveau, et nous pensons que nous n'aurons jamais de démocratie solide sans une justice équitable et impartiale.
D'accord, on va observer là-dessus quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue du Parlement.
D'où les débats de l'Assemblée nationale sur Studio Tamani.
Avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID. Voilà, vous l'avez entendu, vous pouvez réagir sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. C'est le grand dialogue du Parlement qui se poursuit avec les questions d'actualité, Ebola, la mission de l'aménagement et la rentrée des cours et tribunaux. Nous en parlons avec Yacouba Michel Kone et Moussa Diarra du RPM, Bakary Woyo Doumbouya des FAR et Habib Soufara de l'URD. Deuxième thème que nous abordons, c'est le changement du mandat de l'aménagement demandé par sept pays. Une réunion de crise a lieu hier à Niamey des pays contributeurs de troupes de l'aménagement. À ce jour, 33 soldats de la paix sont morts au Mali depuis l'arrivée de la mission onusienne. Un bilan et une situation qui inquiète les sept pays. Alors, est-il opportun, selon vous, de revoir la mission de l'aménagement? Et je me tourne vers Bakary Woyo Doumbouya des FAR.
Merci. Bon, je pense que avec tout ce qu'on est en train d'entendre et de voir par rapport à l'aménagement, le constat est clair aujourd'hui. Vous-même, vous avez dit 33 casques bleus, voilà, qui sont tués,
sont morts, oui.
Voilà, qui sont morts. Et si nous voyons un tout petit peu, on a l'impression que cette force, elle est cantonnée. Et puis, les moyens modernes, la guerre aujourd'hui, on sait, quand votre vis-à-vis est mieux armé que vous, moi, je ne sais pas s'ils ont des hélicoptères, des engins blindés, d'autres choses. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faille voir au niveau de leur mandat. Je sais pas. Quelque part, j'ai entendu que le mandat n'était pas réprochable non plus. Est-ce que ce n'est pas une question d'application? Est-ce que le MINUSMA a l'équipement nécessaire pour faire face à l'ennemi qui est, en tout cas, armé jusqu'aux dents avec des armements très, très, très sophistiqués? Je pense qu'il y a lieu de s'attarder là-dessus, de chercher à comprendre comment l'aménagement puisse être plus efficace sur le terrain, plus rapide à riposter et à répliquer face à l'adversaire.
En tout cas, les autorités maliennes l'ont demandé à Niamey là-bas. Moussa Diarra du RPM, c'est votre avis également? Il faut revoir le mandat de l'aménagement?
Bon, moi je dirais que l'aménagement est une mission multidimensionnelle qui a été intégrée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers la résolution 2100. Donc avec un mandat bien déterminé. C'était pour appuyer le processus politique dans notre pays et effectuer un certain nombre de tâches d'ordre sécuritaire. Donc aujourd'hui, nous sommes tous au courant qu'il y a des morts partout. Certains pays, comme vous l'avez cité, se sont pleins vraiment de cette mission onusienne à travers les morts décriées. Donc moi je pense que c'était aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies de revoir ces mandats et d'en définir encore. Comme c'est composé des pays voisins, des pays de la sous-région. Et on constate que les morts d'hommes qui sont constatés là-bas sont des gens de ces pays, de la sous-région. Donc moi je pense qu'il faut revenir sur ces mandats de l'aménagement et revoir comment on peut l'étendre, les doter des moyens nécessaires si possible, les mettre dans les conditions optimales pour qu'ils puissent vraiment accomplir leur mission.
Alors, Yacouba Michel Kone, le ministre des Affaires étrangères, a rappelé que l'aménagement peine toujours à réunir ses 12 000 hommes. Seulement 8 000 sont à ce jour opérationnels et la force manque aussi de blindés, comme Moussa Diarra l'a si bien dit tout à l'heure. Alors, quelle explication peut-on donner à cela?
Bon, vous savez, la communauté internationale est engagée sur beaucoup de fronts. Et ce n'est pas seulement au Mali, mais c'est partout ailleurs. On constate de façon générale que ces forces déployées par les Nations Unies ne font peur à personne. Les rebelles, voyez au Congo, voyez un peu partout.
Pourquoi? Donc,
non, parce que la mission qu'on leur assigne, c'est à la limite venir comme une force d'interposition sans moyens. Et souvent le commandement est lointain, là où il faut prendre les ordres. Ça fait que à la limite, on voit comme si on veut d'une chose et de son contraire. Et rassembler
mais
les hommes...
Mais est-ce que ça, ce n'est pas le cas spécifique du Mali? Celui du Congo était différent,
donc. Oui, mais c'est parce qu'au Congo, ils ont suffisamment souffert à un moment. C'était la vie ou la mort. Et là, l'ONU était obligée de revoir leur mission. Et c'était maintenant une force carrément de défense, hein, et qui n'attendait pas qu'on vienne les attaquer.
Ça veut dire que le Mali peut s'attendre à ça aussi.
Ben, normalement, le Mali doit s'attendre à ça. Parce que lorsque vous avez en face un adversaire qui n'entend que le langage des armes, vous vous dites, nous sommes là pour maintenir une quelconque paix. Là, je pense qu'il faut carrément revoir le mandat autrement. Déjà, ceux qui sont là tous les jours sont en train de voir la mort de près. Quel est le pays qui va encore s'engager à fournir des hommes pour venir les livrer? Je pense que le cas du Mali doit interpeller la communauté internationale pour comprendre et se dire que si on prend la résolution d'envoyer des hommes sur le terrain, il faut aussi leur donner les moyens et la mission nécessaire, non seulement en cas d'attaque, se défendre, mais aussi poursuivre jusqu'au maximum et montrer à la force en face qu'elle a les moyens, non seulement de se défendre, mais aussi d'attaquer, même si elle ne sera pas la première à attaquer.
Alors, Habib Sofara, l'offensive est-elle la meilleure solution pour l'aménagement aujourd'hui?
Madame, ce que je vais vous dire, vous avez posé la question de savoir s'il faut réviser le mandat de l'aménagement. La question ne se pose même pas. Ça ne se pose pas. Hein. L'ennemi, contrairement à ce que mes prédécesseurs pensent, ce n'est pas un problème d'équipement. L'ennemi a changé carrément de méthode de combat. Sur le terrain, c'est les mines qui sont en train de poser. Et ces mines vont continuer à tuer ces gens-là. Ils n'ont qu'à faire le choix. Ou quitter, ou rester ou mourir. Donc, la mission est tenue, je répète, de changer de mission. Au risque de mettre toute sa vie en péril. Ça, je vous le dis, hein. Elle est tenue de mettre ça, de changer carrément sa mission. Sinon, ça n'ira pas. Donc moi, en tout cas, ce que je pense, j'exhorte, en tout cas, l'ONU, très rapidement, très très rapidement, à changer la mission de la MISMA. Au lieu que ça soit le seul fait de stabiliser, il faut qu'ils aillent à l'attaque. Qu'ils s'attaquent et qu'ils les enlèvent. Quelqu'un le disait. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Ou vous êtes venu pour les faire partir, ou... En tout cas, moi, c'est mon entendement.
Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre à la disposition de ces hommes de l'aménagement aujourd'hui comme moyen, M. Bakary Woyo Doumbouya?
Non, je l'avais dit à l'entame, quand j'abordais la question, qu'aujourd'hui, en tout cas, ils ont besoin d'hélicoptères, d'engins blindés. Et voilà, pour s'interposer, il faut avoir les moyens de s'interposer. Et aller au-delà, j'allais dire aussi, le choix n'est pas de rester ou de mourir, mais le choix, c'est peut-être de changer rapidement le mandat pour les permettre, consolider, renforcer l'aménagement afin de faire face aux djihadistes et aux terroristes.
D'accord. Monsieur Moussa Diarra, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par cette proposition des chefs d'État africains à Niamey par rapport à l'aménagement?
Oui, quand je dis qu'il faut revoir le mandat de l'aménagement, c'est que je vais essayer de vous donner un point de leur mandat. Ça, c'est la protection des enfants et des femmes en conflit. Comment on peut protéger ces femmes-là et ces enfants quand on n'est pas suffisamment armé ou quand l'ennemi doute de nos forces? Donc, on peut les attaquer tous. Donc, en ce moment, nous disons qu'il faut revoir tous ces mandats de l'aménagement, si possible les éduquer afin qu'ils puissent, dans un premier temps, assurer d'abord l'autodéfense et prévoir en cas des attaques.
Et vous, Habib Sofara, les moyens pour vous?
Bon, les moyens, comme je l'ai dit, c'est de leur permettre d'attaquer. Il n'y a que ça.
Qu'on ça ne se tous prépare les... pas en un seul quoi? Jour, hein? Ça demande du temps.
Non, ça ne demande pas du temps.
Ah bon?
Il faut changer simplement la mission, dire aujourd'hui que Cogné, ils ont beaucoup plus de moyens que les gens là. Ça, je vous le dis. Et si jamais on leur donnait on transformait leur mission à l'attaque, et je voudrais qu'en 15 jours, on va
cette
finir avec...
Cette décision doit venir d'où?
Quels sont ceux qui ont décidé de les faire venir ici? et c'est à eux que nous nous adressons.
Bakary Wayodoumbia voulait réagir.
Oui, oui. C'est-à-dire, on se pose même des questions. Comment ces djihadistes sont parvenus à se masser à ce niveau-là? Est-ce qu'il n'y a plus de sécurité internationale? Les gens ne les voient pas? Les renseignements, où sont-ils? Bon, nous avons beaucoup de questions. On a des interrogations. Et on ne peut pas envoyer les gens à la boucherie. Il ne faut pas envoyer les militaires à la boucherie. Aujourd'hui, il est très, très impérieux, très, très urgent d'échanger ces mandats afin qu'ils puissent en tout cas jouer pleinement leur rôle. S'il s'agit des mines et autres, ceux qui viennent sur le terrain, c'est des professionnels. Ils savent comment en tout cas
déminer.
Voilà, donc vraiment, il faut aller rapidement vers ça pour ne pas faire davantage de morts.
Moi, je vois trois moyens. Le premier, et qui souvent ne transparaît pas très bien, c'est le renseignement. Pour qui connaît le terrain au nord aujourd'hui, celui qui te bat en renseignement, même si tu as tous les moyens, il a déjà 80% de chances de triompher sur toi. Donc, il faut les renseignements.
Ça n'existe ensuite, pas à l'aménagement?
Bon, je ne sais pas, mais j'ai tendance à croire que c'est un peu minimisé quand même. Mm-hmm. Ensuite, il faut les moyens aériens pour pouvoir couvrir et contrôler les mouvements de ces groupes, de ces djihadistes qui ne peuvent plus en grand groupe, mais en petit nombre, et souvent même avec des motos. Ensuite, il faut les moyens forts, donc les moyens logistiques vraiment de pointe pour pouvoir les attaquer au cas où le besoin s'impose. Voilà pour moi les trois moyens que la communauté internationale, les Nations Unies doivent mettre à la disposition de cette force et pour éviter le carnage dont mon prédécesseur parlait.
Alors, Moussa Diarra, ce regain de violence sur le terrain contre les hommes de l'aménagement, est-ce que cela ne va pas mettre en cause le processus de dialogue à Alger?
Bon, moi, à mon entendement, au contraire, ça doit jouer sur le processus. Parce que quand nous sommes en Algérie, pour trouver des solutions à ces problèmes-là et que les conflits continuent au nord, ça veut dire qu'il y a violation quelque part. À mon avis, il y a un cessez le feu qui a été signé. Si une partie viole ce cessez le feu, en train de violer ce cessez le feu en s'attaquant aux hommes, moi je pense que ça doit donner à réfléchir. À qui? À l'Union européenne, aux Nations unies. Parce que ce qui est recherché, ça, c'est la paix. Mais on ne peut pas trouver la paix pendant que l'une partie est en train d'observer les CCV et l'autre est en train vraiment de violer les CCDF. Donc, moi, je pense qu'on doit revoir ce côté. Est-ce que les CCDF qu'on a signé est en train d'être respecté ou pas?
Ouais.
Donc, dans le processus de négociation en Algérie, moi, je pense que ce côté doit ressortir pour voir qui est en train de travailler pour la paix et qui n'est pas en train de travailler pour cette paix-là. Et cela est clair, à mon avis.
Habib Sofara, regain de violence et négociation. Quelle appréciation?
Bon, pour moi, vous savez, hein, le processus de paix qu'on est en train de débattre, qu'on est en train de négocier à Algérie, je ne dirais pas que ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Parce que les acteurs ne sont pas les mêmes. Il faut qu'on se le dise. Sur le terrain et à chose, en Alger, c'est le Mali et les Maliens. Alors que sur le terrain, ce qui est en train de se passer, c'est la communauté internationale contre des djihadistes venus d'ailleurs. Donc il faut qu'on mette la différence. Il faut qu'il y en ait. Qu'on se dise que ce n'est pas la même chose. Donc, pour moi, ça, d'accord, ça peut avoir un petit impact sur les négociations d'Alger, mais seulement que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, vraiment. Ce que nous avons dit au début, ça, je le répète, c'est à la communauté internationale, vu tout ce qui est en train de se passer, doit se ressaisir, revenir sur la vérité qui est de changer le mandat de la ministre. C'est tout.
Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, opposition et majorité. Et, en quelques secondes, parce que c'est déjà l'heure de la pause. Okay. Oui. Bon, Monsieur Koné.
Oui, je voudrais juste dire, moi je crois la bonne foi de nos frères qui se sont rebellés à un certain moment. Mais la question fondamentale, quelle est la frontière entre le MNLA, ASUEA et MAA et comment les djihadistes, la veste se retourne à tout moment. Et donc, je suis tenté de croire que ce qui se passe maintenant, nos frères ne sont pas impliqués et qu'ils respectent. C'est le fait qui a été signé. Mais vous savez, dans une, tu sais le jour où tu commences la rébellion, mais le jour où elle va s'arrêter, nul ne peut la maîtriser. Et souvent, elle va au-delà même de la maîtrise de ceux qui l'ont engagée. Donc, je me dis, normalement, ça ne devrait pas avoir une incidence aussi sensible sur les négociations en cours. Parce que je suis tenté de croire que nos frères qui sont en face de nous pour négocier cette paix ne sont pas impliqués.
On va en pause et puis nous revenons pour faire réagir M. Doumbia.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue du Parlement.
Tous les débats de l'Assemblée nationale sur Studio Tamani.
Avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID. Voilà le grand dialogue du Parlement avec trois sujets d'actualité, la rentrée des cours et tribunaux, Ebola et la révision du mandat de l'amunissement demandé par sept pays. Nous parlons maintenant de ce virus qui fait peur, mais avant, juste avant la pause, il manquait que M. Doumbia donne son avis par rapport au regain de violence et les négociations d'Alger.
Non, franchement, moi je pense que, contrairement à mon voisin, mon ami, qu'il y a quand même une mauvaise foi. Une mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est que au nord, au moment où tout le monde, tous les protagonistes sont en Algérie pour échanger, se mettre d'accord sur une feuille de route qui devrait en tout cas permettre une paix durable dans notre pays, on ne comprend pas au même moment ces regains. On ne peut pas comprendre ça. Et je ne comprends pas comment les renseignements... Moi, j'ai eu même... J'ai l'impression, comme tout citoyen d'ailleurs, est-ce que en Algérie, chose le Nord, et le regain de tension n'est pas l'épée de Damoclès qu'on est en train de mettre au-dessus de la tête du gouvernement malien pour céder à leur prétention à leur prétention et chose de fédéralisme et de les velléités de quoi. Moi je pense que sincèrement la mauvaise foi elle est patente et aujourd'hui il faut travailler de manière que les Maliens ils sont impatients de voir que cette chose qu'on puisse en tout cas mettre un terme et avoir une stabilité durable.
D'accord. Nous parlons maintenant de ce virus qui fait peur, Ebola. Il a déjà tué près de 5000 personnes. Au Mali, les personnes qui ont eu un contact avec la fillette décédée à Kaï ont bouclé leur deuxième semaine d'observation. Présentement, un vaccin expérimental est en test au Mali par un groupe d'agents de santé. N'est-ce pas là, mes chers honorables, une lueur d'espoir pour lutter contre la fièvre Ebola? Et je me tourne vers Michel Yacouba Koné.
Merci. Bon, je pense que c'est vraiment une lueur d'espoir parce que quand on a une maladie comme ça qui fait peur, au début, il n'y avait pas de médicaments. Maintenant, il y a un au moins qu'il faut tester et qui certainement en laboratoire a fait ses preuves. Je pense que c'est vraiment la bienvenue et nous ne pouvons que féliciter ceux qui ont été à la base de ces vaccins-là. Et tout l'espoir du monde entier est porté sur ces différents vaccins qui se conçoivent dans les laboratoires. Et ce n'est pas seulement une question d'Afrique ou d'Europe, hein. C'est une question vraiment de santé publique au niveau international, au niveau mondial. Parce que si on ne fait pas gaffe, Et avec les signes vraiment qui ne transparaissent pas très tôt, tout le monde est menacé. Et donc, je crois que c'est vraiment bien et c'est à encourager. Et le gouvernement doit mettre tout en œuvre, tout ce qui peut amener, au moins sur le plan de la psychologie, les gens à être tranquilles Et le gouvernement doit tout faire pour entrer en possession de ces différents vaccins pour tranquilliser. Parce qu'au moins, le cas qui a été révélé à Kaï, heureusement qu'il y a eu suffisamment beaucoup d'informations autour pour apaiser les gens.
Ouais. Alors Moussa Diarra, le vaccin, ça vous rassure?
Oui, moi je dirais que ça me rassure. Mais quand vous dites qu'il y a eu 5000 morts,
près de
5000 morts, moi je dirais qu'il y a aussi parmi ces 5000 morts, 300 morts qui sont des agents de santé. Donc, ce qui fait encore peur pour cette maladie-là. Mais aujourd'hui, après de nombreuses critiques sur les lenteurs ou même l'absence d'urgence qu'on a constatée par rapport au développement du vaccin contre Ebola, je dirais aujourd'hui que ce premier test est une lueur d'espoir pour l'ensemble des hommes. Mm-hmm. Donc, comme l'a dit Michel, ce n'est pas une maladie qui... Peut-être qu'il a commencé en Afrique ici, mais qui n'est pas une maladie africaine qui est partout parce que des cas ont été aussi signalés en Europe. Donc, quand on parvient vraiment à trouver un vaccin comme ça là pour lutter contre cette maladie, vraiment, c'est des trucs qui sont vraiment encourageants. Donc, nous invitons vraiment la communauté internationale qui est à pied d'œuvre, la CDAO, parce que à ce que je sache, à l'instant même, les chefs d'État sont en sommet pour lutter contre cette maladie. Donc moi, je dirais aux chercheurs vraiment de développer encore d'autres techniques afin vraiment d'être encore plus serein pour trouver vraiment des remèdes à cette maladie.
Habib Sofara.
Oui, madame. Bon, moi, ma peur, ce n'est pas par rapport à la maladie, mais ma peur, c'est par rapport à la mentalité. La façon de comprendre l'homme malien. Il ne croit qu'à ce qu'il voit. Et vous savez que cette maladie peut être une seule personne sur l'ensemble du peuple malien. Les gens, par-ci, par-là, ils disent que c'est une maladie qui n'existe pas. Mais, ayons peur que Dieu ne le fasse pas. Si jamais, avec cette mentalité, la maladie tombait, c'est très grave. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai plus peur de la mentalité malienne que de la maladie.
D'où il faut renforcer la sensibilisation.
Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que solennellement que la maladie Ebola existe, bel et bien, il faut s'en préserver. J'encourage les services publics. Il faut reconnaître que depuis le début, le ministre, son ministère, et tout le service public en train de se battre, de se mouvoir, dans le cadre de la sensibilisation. Ça, c'est une très bonne chose. Mais seulement que je leur demande, ils n'ont qu'à sensibiliser jusqu'au plus petit hameau, jusqu'à Sofara, jusqu'au plus petit hameau, justement, du pays.
Et le vaccin?
Bon, pour ce qui est du vaccin, ça nous provient de là-haut. Mais d'ici, préservons-nous d'abord. Faisons en sorte que ça ne vienne pas. Croyons que c'est une maladie qui existe et décidons de tout faire pour respecter les mesures d'hygiène. Des mesures d'hygiène. Et pour respecter les mesures d'hygiène, il faut croire. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut faire croire d'abord et puis respecter les mesures d'hygiène pour éviter. Le truc là, ça viendra après.
Le vaccin.
Est-ce...
Ah bon, c'est votre avis, Bakary Wayadoumbia?
Oui, mais un peu nuancé. Et c'est vrai, c'est la lueur d'espoir, c'est le feu foulé, mais il faut faire attention. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, face à l'hécatombe, et la communauté internationale est nonchalante et traîne encore les pieds par rapport à ce vaccin. On se pose des questions, parce que ça fait plus de dégâts chez nous que là-bas, où on s'interroge. Parce que quand même, c'est trop, les chiffres, il est à la limite inadmissible.
Ouais.
Voilà.
Oui, une des solutions aussi prônées par les dirigeants de la CDAO a été de désigner le président togolais Faure Gnassingbé hier à Niamey comme coordinateur de la lutte contre le virus Ebola. Ça voudrait dire que les dirigeants africains unissent leurs efforts. Est-ce une bonne idée?
Une très bonne idée. Mm-hmm. Vous savez, c'est, comme on le dit, c'est en conjuguant les efforts, c'est en mettant ensemble ce que chacun a que nous pouvons beaucoup. Si chacun isolement essaye d'agir, je crois qu'on a très peu de chances à se faire écouter. Mm-hmm. Et donc, c'est une très bonne initiative, je trouve, hein, parce que... Et on a même reproché à l'Afrique de rester muette malgré cette maladie qui était en train de prendre un rythme effroyable. Hein. Ouais. Donc, si nos dirigeants, au cours d'un sommet, désignaient un coordinateur, vraiment, je pense que c'est très bien. Et ça permettra, il y a un interlocuteur auprès de la communauté internationale, il y a un interlocuteur qui ne vient plus au nom d'un pays, mais au nom d'un ensemble de pays. Nous avons de quoi nous faire entendre pour lever un peu, effectivement, l'inquiétude de l'honorable Doumia qui est justifiée. Parce que quand on voit cette maladie et comment les choses ont traîné à un moment, il y a de quoi s'interroger.
D'accord. Mais la Mauritanie a déjà fermé ses frontières avec le Mali. Comment jugez-vous cette décision des autorités maliennes, Monsieur Moussa Diarra du RPM?
Moi, je pense que le fait de fermer les frontières ne résout pas ces problèmes-là. Mm-hmm. Ça ne résout pas les problèmes. Le Mali qui n'a jamais fermé ses frontières-là, le premier cas a été découvert bien tardivement, contrairement à ceux qui... Dans un premier temps, on fermait leurs frontières. J'ai parlé du Sénégal et puis de la Côte d'Ivoire. Le cas a été signalé dans ces pays-là bien avant le Mali. Donc je dis que le fait de fermer la frontière n'est pas une solution à cette maladie. Ce que la Mauritanie fait, bon, quand on ferme la frontière, moi je pense que... Avec l'intégration sous-régionale, moi je pense qu'on est en train de violer vraiment certaines...
Les échanges commerciaux prennent un coup quand même. Hein?
Donc on est en train de violer certains actes que nous avons même eu à signer entre nos États. Mais je salue, j'ai des passages, le sommet de la CEDEAO qui est en train de se tenir. Moi je dirais que les chefs d'État, ils n'ont pas le choix. Parce que je pense que c'est... un troisième du CIJAR, et c'est à l'issue de ce sommet que nous avons eu des aides venant de communautés internationales comme l'Union européenne et puis le Japon. Donc c'est des trucs à saluer parce que personne ne peut venir nous aider ici si nous-mêmes, en tant que chef d'État, nous ne réunissons pas vraiment pour évoquer nos problèmes et essayer de trouver des solutions. Donc des sommets de ce genre-là, moi je pense que c'est des sommets salutaires et que nous devons continuer dans ce sens-là pour éradiquer cette maladie une bonne fois pour toutes.
Habib Sofara, est-ce que la fermeture des frontières est une solution à lutter contre le virus Ebola?
Non, ce n'est pas la solution. Ça, notre président, il a fait son voyage dans les trois pays les plus attaqués. Et dans ces trois pays, il a fait comprendre que le Mali ne fermera jamais ses frontières. Parce que ce n'est pas la solution, justement. Oui. Ce n'est pas la solution. Et je vous assure, madame, en opposant, pour une fois, je demande vraiment de faire confiance au gouvernement quand même dans cette sensibilisation.
Faut d'accord. On va
pour
on va
tous les conseils d'usage que le gouvernement est en train de donner.
On va finir sur ça. Voilà. Merci à vous, honorables députés. Voilà, c'est donc la fin de ce grand dialogue du Parlement qui recevait Yacouba Michel Kone et Moussa Diarra du RPM, Bakary Woyo Doumbia des Phares et Habib Soufara de l'URD. Ce numéro vous a été présenté par Sira Bachili. Ousmane Diadé Touré l'a réalisé et la mise en onde était assurée par Sedoumbo et Salim Diouara. Cette émission est rendue possible par le soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international. Le contenu de cette émission est de la seule responsabilité du studio Tamani et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. Merci de nous avoir prêté attention. C'était un plaisir de vous servir. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Halo Dumouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.